Famille, justice, enfance.
Philippe Gouillot sur RLP, qui est déjà venu nous voir il y a quelques semaines pour parler du QI, du quotient intellectuel et de son application dans la gestion des enfants. C'est un thème général, mais qui est important pour les parents. Philippe Gouillot sur gouillot.com, G-O-U-I-L-L-O-U.com, auteur notamment du QI, des causes aux conséquences, de la génétique au capitalisme cognitif en 2024. Avant cela, il avait écrit le guide pratique de l'enfant surdoué repéré dès les enfants précoce. Entre 1998 et 2019, il y avait eu 12 éditions. Il nous a parlé aussi de quelque chose qui s'appelle « Pourquoi les femmes des riches sont belles ?» Programmation génétique et compétition sexuelle. Et Philippe Gouillot a aussi un dada sur la psychologie évolutionniste. Alors, Philippe Gouillot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je donne une définition de la psychologie évolutionniste. Vous allez me dire si jamais c'est bien, si j'ai compris ou si jamais c'est pas ça. La psychologie évolutionniste est une branche de la psychologie qui cherche à expliquer nos comportements, émotions et modes de pensée en les replaçant dans le cadre de l'évolution de l'espèce humaine, propagation des gènes, recherche de la calorie. En fait, c'est un darwinisme amélioré. Voilà. Est-ce que c'est ça?
Alors globalement, oui, sauf oui, c'est une application du darwinisme, enfin de l'évolutionnisme. C'est se dire, il n'y a pas que notre corps qui a été sélectionné par la sélection naturelle, quoi. Il n'y a pas que notre corps qui est devenu comme ça. Notre cerveau aussi est soumis aux contraintes évolutionnistes. Et en raisonnant selon ces contraintes-là, on arrive à expliquer un certain nombre de comportements et d'états internes psychologiques.
D'accord.
C'est-à-dire que maintenant, la psychologie évolutionniste, au départ, c'était évidemment une idée. Maintenant, c'est devenu le métacadre général des recherches. C'est-à-dire, les recherches, on les inscrit, on cherche à comprendre, quand on fait une recherche en psychologie, comment telle chose a pu être sélectionnée.
C'est-à-dire, on va essayer de...
Ça s'appellera bientôt psychologie.
D'accord. On va essayer de contextualiser les études psychologiques, les connaissances psychologiques dans une perspective d'évolution. C'est ça, en fait.
Voilà. Comment ça a été sélectionné? Comment telle chose a été sélectionnée? Pourquoi on a tel comportement? Pourquoi on a tel biais cognitif? Pourquoi on a telle chose, etc. Et ça rentre, pourquoi on va avoir telle préférence et tel dégoût, pourquoi on a peur, pourquoi on a la colère, enfin...
Mais ça peut nous emmener très très loin, ça peut nous emmener extrêmement loin, parce que est-ce qu'il y a une notion de hasard dans l'évolution? Est-ce qu'au contraire, il y a des règles générales qui apparaissent? Ça peut nous emmener très 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 loin comme perspective.
Alors, sans rentrer dans... Pour aller très très loin, il y a la question du hasard. Alors là, c'est difficile d'aller plus loin. Mais est-ce que le hasard existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Ça, non, c'est une question philosophique. Mais c'est pour aller jusque-là. Oui, en termes standards, oui, il y a une forte contingence. C'est-à-dire que l'évolution est intervenue, mais il y a des règles globales. C'est-à-dire qu'un gène qui augmente les chances de se transmettre a plus de chances de se retrouver aux générations suivantes. D'accord. Globalement, l'idée, c'est ça. Alors, mais c'est des probabilités, c'est juste, c'est pas une certitude.
La psychologie évolutionniste, elle donne raison à Darwin ou elle donne raison à Lamarck?
Alors, c'est plus compliqué que ça, dans le sens D'accord. que ce qu'on appelle maintenant darwinisme et lamarckisme, bon, évidemment, les deux sont... Darwinisme a tellement évolué que c'est...
Très décrit actuellement, d'ailleurs.
Actuellement, on associe actuellement Lamarck à l'évolution au cours de la vie, c'est-à-dire le changement au cours de la vie, et Darwin à l'évolution par la transmission, maintenant on sait génétique, mais pas transmission des... Il n'y a pas de transmission des caractères acquis, alors que Lamarck, c'était la transmission des caractères acquis. En cherchant sur le sujet, j'avais vu que Darwin, qui ne connaissait pas les gènes, qui n'avait rien pour fonder cette transmission, à l'époque, il n'avait pas à la base, par moment doutait et a pensé, lui, ça. Et que Lamarck aussi se posait la même question. Donc la différence entre les deux était beaucoup moins nette qu'on le croyait, mais il faut voir quand même qu'il y a 60 ans entre Darwin, Lamarck était 59 ans avant Darwin. Donc Darwin connaissait Lamarck, enfin les travaux de Lamarck et tout. 60 ans, ça fait quand même deux générations, c'est beaucoup. Donc, non, la... Et maintenant, c'est encore plus compliqué parce qu'avec l'épigénétique, etc., on se demande, et puis tout ce qui influe sur l'expression des gènes, donc épigénétique au sens le plus large, certains disent qu'il y a une sorte de transmission des caractères acquis.
Mais disons que si je me souviens de mes cours de biologie de terminale, hein, à l'époque où on avait encore un peu de ces matières-là au lycée, Darwin disait qu'il y avait des évolutions liées au hasard. Le fameux papillon gris qui apparaissait par lui-même parce que les arbres étaient passés du marron au gris.
Ouais.
Ce à quoi j'avais répondu. Donc le papillon rose, où est-ce qu'il est? Si jamais ils apparaissent au hasard comme ça, voilà. Et Lamarck, lui, par contre, se plaçait plus dans une continuité où il y avait une évolution qui se justifiait par rapport... Elle n'était pas due au hasard, il y avait vraiment une justification par rapport à l'environnement et à l'évolution.
Alors, pour la caricature de Lamarck, c'est la girafe à un long cou parce qu'ils ont étendu le cou et les enfants ont bénéficié du cou étendu des parents.
Voilà, pour aller vite, c'est ça.
C'est caricatural,
voilà. Ouais.
Mais ça, on sait que ça ne marche pas comme ça. Darwin, il y a une notion de hasard en effet, parce que à chaque procréation, c'est le hasard de l'instant. Hein. C'est ce que disait René Clair, que serait-il advenu de ce moi qui me semble si lourd à porter si mes parents avaient quelque peu hâté ou différé leurs embrassements.
Mm-hmm. C'est joliment
dit. Vraiment, il y a une notion de hasard.
Oui.
Mais
il n'y a pas que le hasard, autrement il y aurait eu les papillons roses. Voilà.
Voilà. Ensuite, il y a la pression sélective qui va faire que, d'abord, quand il y a faut d'abord que les gènes marchent ensemble pour que l'individu soit viable. Et ensuite, il faut que les gènes donnent quelque chose qui puisse à la fois survivre et lui-même transmettre ses gènes, lui-même se transmettre. Donc, si vous avez une combinaison génétique, vous faites naître un hasard, fait une personne. Ça marche, vivante, mais qui n'a jamais d'enfant, qui ne transmet jamais ses gènes, cette combinaison génétique disparaît.
D'accord.
Ensuite, ça se complique parce que ça serait la moitié de la combinaison. Enfin, il y a des forces, ce qu'on appelle les forces évolutives, qui ne dépendent pas complètement du hasard. Mais sinon, au niveau de point de départ, la procréation en elle-même est un hasard.
Ok. Alors, on va enchaîner sur ça. On va regarder notamment... Donc là, on voit que la propagation de nos gènes, en fait, est quelque chose d'important parce que on sait, via l'épigénétique, que nous sommes le fruit de nos parents, de nos grands-parents, de beaucoup de choses qui se sont adaptées. Et si nous sommes là, en fait, il y a presque un devoir de transmission et autres. Et moi, j'étais fasciné, quand je suis arrivé en Occident, de voir, en fait, cette évolution de l'Occident où on arrive à des mouvements, en fait, philosophiques où on ne veut pas plus parfois faire d'enfants, où on ne veut plus se placer dans une logique de recherche de protéines, de propagation de gènes, d'évolution. On a l'impression parfois qu'il y a des pensées mortifères et suicidaires. Vous avez travaillé notamment sur l'influence du quotient intellectuel et de l'économie, vous parlez de capitalisme cognitif, vous regardez l'évolution de l'être humain par rapport à son environnement. Vous portez quel regard sur l'Occident actuel et ses évolutions dans le monde de la famille notamment?
Alors, il y a de fortes chances. Bon, on peut penser aux expériences de Kalloun en 1960, les années 68-73. Vous connaissez ? Il avait mis des rats, c'est l'expérience utopique.
Ah, c'est laquelle ?
Il a mis des souris.
Ouais.
Il les a mis des souris dans un environnement parfait pour elles, où vous pouvez se multiplier.
Ah oui, c'était trop bien. Quand c'était trop bien, ils sont devenus feignants, homosexuels, ils ont arrêté de se reproduire, c'est ça ?
Et ils ont arrêté de se reproduire et ils ont disparu.
Ouais.
Alors, l'explication usuelle, c'était que c'était la surpopulation. Ce qui, à l'époque, c'était les années 60-70. On commençait à sentir le baby-boom. Il y avait une peur de surpopulation sur la Terre. Donc, en effet, les gens se sont dit que la surpopulation est un danger. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui a été sortie. C'est que c'était simplement l'accumulation de mutations génétiques négatives. Ça s'appelle en anglais mutation load, le fardeau génétique. Et si on regarde la situation en Occident depuis la fin du 19e siècle. Il y a eu moins de mortalité infantile, moins de sélection naturelle, etc. Et une hypothèse est qu'on a accumulé une charge génétique, mutation load, qui fait que on retrouve à peu près la même situation que Calonne. Et qu'on est dans une situation où il y a hyper-développement des comportements non fertiles et autres. Mais ça n'explique pas tout. Pour la situation en Occident, il faut aussi regarder, Gad Saad parle des virus cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui font qu'il y a une volonté de... Le KGB était intervenu pour essayer de lancer certaines idées qui se sont développées en Occident et qui avaient pour but de détruire l'Occident. On voyait les vidéos de Bazmenov en début des années 80.
Oui,
Yuri Bazmenov. Donc, la mutation load n'explique pas tout. Mais je pense qu'elle a une part d'explication.
Après, j'ai commencé fort et j'ai un peu tapé dans une direction. On va faire un peu l'avocat du diable et le contre-pouvoir. Il y a beaucoup de sociétés, une fois qu'elles sont évoluées, qui font ce qu'on appelle une transition démographique. C'est-à-dire qu'ils font moins d'enfants, ils se reproduisent moins, de manière naturelle. Ils contrôlent en fait leur population.
Oui, alors... Quand... Si pour avoir 3 enfants, il faut en faire 8... tout autour de vous, vous allez commencer à avoir 8 enfants et puis il y en a 3 qui survivront. Si la médecine arrive au bout d'une ou deux générations, vous allez vous rendre compte que c'est pas la peine de vous fatiguer à avoir 8 enfants. Vous en faites 3, il y a très peu de chances qu'il y en ait un qui meurt, si c'est 1 pour 1000 par exemple. Donc, servir au même et ça va faire une transition, on appelle la transition démographique. Alors, cette transition, il semblerait qu'elle est en train de se retourner dans certains pays, pour différentes raisons, dont religieuses.
D'accord.
Et même à des pays qui, ça ne veut pas dire qu'ils retournent à l'âge de pierre, ça veut dire qu'ils ont décidé de retourner avoir plus d'enfants. Il y a aussi que on a un investissement parental très très fort. Ce qu'on appelle stratégie R et K. Nos enfants, on investit énormément dessus. Et comme maintenant, on sait qu'ils ont de fortes chances de survivre, grâce à ça, on a une tendance à encore plus investir dessus. Et donc, avoir moins d'enfants pour investir plus sur ce qu'on a. Donc, il y a cette évolution-là. Avant, les gens avaient plein d'enfants, certes, mais ils s'en occupaient très peu. Maintenant, un enfant, ça coûte une fortune.
Ça dépend. Ça dépend où on vit. L'accouchement de ma fille m'a coûté 15 000 euros. L'école de ma fille en maternelle, la petite section, me coûtait 4 500 euros le trimestre. Il y en avait 3 par an. Donc ça dépend là où on est placé. Je trouve qu'en France, l'éducation des enfants ne coûte pas forcément si cher. Bon, ce ne sont plus nos enfants, ce n'est plus nous qui sommes décisionnaires par rapport à beaucoup de choses, mais l'État prend en charge beaucoup de trucs. Ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui.
Oui, nous, ça coûte beaucoup moins cher.
Ouais.
Mais malgré tout... Regardez, on entend parler parfois de personnes qui ont 10 ou 15 enfants pour toucher les allocs.
Oui.
On se dit, mais les allocs ne suffisent pas à élever un enfant. Mais en fait, c'est qu'ils investissent très très peu dessus.
Non, mais un enfant n'a pas besoin d'argent, il a besoin d'amour. Je veux dire, à partir du moment où vous avez 3 ou 4 enfants, effectivement, vous avez un budget suffisant et vous leur apportez effectivement votre temps et la chaleur humaine dont ils ont besoin. Et effectivement, ça, l'environnement ici devient suffisant pour les faire grandir. Ça, c'est établi, ça, je pense. À partir de 3 ou 4, oui, c'est établi.
Non, je n'ai pas été jusque-là, moi, donc je ne peux pas garantir.
D'accord.
Donc la tendance à avoir moins d'enfants ou à ne pas en avoir s'explique par un seul... Enfin, il y a différents facteurs qui vont agir dessus. Je ne vais pas dire s'explique parce qu'on n'a pas l'explication complète, mais il y a différents facteurs qui vont jouer dessus, dont le fardeau génétique, dont des campagnes qui ont été lancées de guerre cognitive, et dont un plus grand investissement sur ce qu'on a. Plus grande importance qu'on donne à ce qu'on a.
D'accord.
Et donc, bien sûr, évidemment...
D'accord. Ok. Bon, question suivante. Vous faites aussi de la prospective économique. Vous essayez d'ailleurs de prévenir l'avenir de manière économique et géopolitique. En se basant sur un point de vue de psychologie évolutionniste, là, vous résidez en France, vous avez étudié l'Occident. On est en train d'évoluer vers quoi et comment ça va se passer ? Si vous avez une boule de cristal, là, ou un tarot, je veux bien écouter, ça m'intéresse. Dites-nous. Dans quelle direction allons-nous ?
Alors, ce que me dit la boule de cristal, hein. C'est Perda qui disait les prédictions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir.
N'est-ce pas ? D'ailleurs, il peut le faire. Mais bon.
Voilà. Non, on est en train de foncer dans le mur, mais enfin bon, ça tout le monde le voit, oui. Sur un certain nombre de points. Il y a des règles en économie qui sont intangibles, qu'on fait exactement l'inverse. La règle, c'est que... le QI est le premier critère qui explique la réussite d'un pays. C'est le facteur le plus important. Mais le deuxième, c'est la liberté économique.
Ça, c'est important, on ne le dira jamais assez, ça. On l'a oublié beaucoup, ouais. Mais la liberté d'entreprendre, la liberté économique, la faible taxation est en relation directe avec la prospérité du pays, ouais. Et donc de ses habitants.
Alors, pour moi, ce qui est montré, c'est que toute intervention étatique dans un échange libre, que ce soit par des taxes, des régulations, etc., etc., a un coût que toute la société paye. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. Ça veut dire qu'il faut connaître le coût.
Bien sûr.
Et des fois, on achète quelque chose, ça a un coût, parce qu'on a choisi de l'acheter.
Bah, c'est un balance bénéfice-risque. Ouais.
Ouais. Balance bénéfice-risque. Mais toute intervention étatique a un coût. Et à partir d'un moment, quand il y a trop d'interventions étatiques, et bien là, les bénéfices, ils deviennent quasiment impossibles à trouver. On est, si on prend la France officiellement, à 57,5% de l'État qui par rapport au PIB. L'URSS, c'était 50,5% de mémoire. Donc on est encore plus communiste que l'URSS. Certains disent que si on prend en compte leur bilan, les dettes, etc., c'est pas 57, c'est 67%, c'est-à-dire l'État gère les deux tiers de l'économie. Or, l'État ne peut pas savoir quels sont les besoins de chacun, c'est strictement impossible, hein. Même avec le meilleur ordinateur du monde, il ne pourra pas. C'est-à-dire que l'économie ne peut pas s'adapter, donc on va dans le mur.
Alors, un économiste m'a répondu à ça en disant qu'aujourd'hui, on était dans une configuration qui était inédite parce que l'argent était dématérialisé, que ce qui était important, c'était non pas le montant de l'argent au niveau des États, mais sa vitesse de propagation et de circulation. Il y a un terme technique pour ça. Et donc, en fait, la dette, on s'en moquait parce que avec l'inflation, éventuellement un changement de monnaie, on continuait. Tant qu'il y avait assez de création de valeur par l'État qui passait d'une poche à l'autre, ça posait aucun problème.
Oui, mais cette création de valeur ne sera pas adaptée. C'est-à-dire, ce qui fait de la valeur, c'est l'échange.
À la célérité,
c'est la quantité d'échange. C'est-à-dire, je vous vends mon crayon, je vous vends 10 euros mon crayon, vous l'achetez 10 euros, vous avez perdu 10 euros, moi j'ai perdu un crayon. Mais tous les deux, on a l'impression de l'avoir gagné. C'est-à-dire, vous avez préféré me donner les 10 euros et avoir le crayon, et moi j'ai préféré vous donner le crayon. Et avoir et gagner les 10 euros. Et ce moment-là où il y a, va faire qu'il y a création de valeur en permanence. Donc si on augmente la possibilité de créer des valeurs, va y avoir une croissance économique. Si on met des normes, des régulations, des taxes, etc., c'est-à-dire que pour vous vendre le crayon, eh bien, il faut d'abord que j'aille passer 3 mois à monter une entreprise sous telle forme, et puis que j'aille payer telle taxe, et que ceci, cela, etc., il n'y aura plus de création de valeur. Donc l'État, c'est ce que j'appelle le grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage de la création de valeur.
Mais est-ce qu'il y a déjà eu, par le passé, un exemple reproductif à ce que nous vivons actuellement avec la famille... Emmanuel Todd dirait la famille nucléaire égalitaire, hein, française, mais avec un si fort taux de séparation, de divorce, de parents isolés, d'ingérence de l'État, une telle quantité de la population, d'enfants qui sont placés, qui sont gérés par l'État. Quand on analyse en fait la famille occidentale aujourd'hui, c'est un désastre. Hein. On est à 60% des parents qui sont confrontés à des problèmes d'enfance ou alors à des enfants qui sont suivis par des AEMO ou par l'aide sociale à l'enfance. On est à 21, je crois qu'on est à 21 milliards d'euros. Non, on a je sais plus au fond. On est, non, en 2021, on était à 13 milliards d'euros. En 2019, on était à 11. En fait, la gestion de la famille n'est quasiment plus naturelle. Elle est mécanisée. Elle est gérée par des process. Si il n'y a aucune loi, aucune règle, on va dire qu'elle est naturelle. Si jamais il y a effectivement des subventions, des interventions qui viennent voir, on va dire qu'elle est mécanisée. Il y a une partie de la population qui ne veut plus faire d'enfants. Moi, j'ai des psychologues qui m'ont dit qu'on avait un état psychologique de la jeunesse proche de celui d'un état en guerre. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus faire de société, ils ne veulent plus entreprendre, ils ne veulent plus aller bosser pour faire carrière, ils ne veulent plus faire de gosses et tout. Est-ce que par le passé, c'est déjà arrivé à une civilisation, ça ?
Alors, l'Occident a une caractéristique, c'est d'être weird, hein, c'est donc d'avoir pas de notion clanique, d'être moins ethnocentrique que les autres populations.
Oui, on a plus l'esprit collectif que dans certains endroits, ça c'est clair. On va le dire comme ça, voilà.
Oui, ouais, et moins la famille et plus le... On peut être plus individualiste, ça peut se dire aussi comme ça. Donc ça, je ne sais pas si ça existait dans d'autres... Je n'ai pas vraiment d'exemple de... Alors certains disaient l'Allemagne des années 30, ça se lit souvent sur Internet. D'autres, j'ai lu la fin de l'Empire romain, ou pareil, mais il n'y avait pas une telle, par rapport à certains critères, mais il n'y avait pas une telle mainmise de l'État sur la vie de chacun. Parce que là, actuellement, les deux tiers sur le grand nombre, les deux tiers, c'est l'État qui le gère, mais au niveau des individus, ça veut dire qu'il y en a qui sont 100% gérés par l'État.
Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la perspective de la psychologie évolutionniste, c'est comment le groupe, comment l'humain va réagir par rapport à cette intrusion, ce contrôle extérieur très, très prégnant. Et je me demandais si ça avait déjà existé par le passé, quoi, et quelle était la réaction de l'espèce par rapport à ça.
Je pense que ça disparaît, tout simplement.
D'accord.
Voilà.
La perte de liberté et d'autonomie entraîne une disparition.
Au bout d'un temps, oui, parce que vous avez la perte de liberté et d'autonomie. Certains disent détruit l'âme, pas dans le sens religieux, hein, mais dans voilà, la volonté d'être, etc. Et ça détruit donc le dynamisme de la personne. Et donc, ça finit par détruire la société. La société est construite par les personnes.
Oui, parce qu'on crée des dépressifs assistés. Ouais,
ouais. Voilà. 60% des jeunes femmes de gauche aux États-Unis ont reconnu avoir eu des problèmes psychiatriques dans l'année précédente. Ça fait quand même beaucoup. 60%. Non, ça ne peut que... Soit il y a une réaction à un moment donné, je ne sais pas sous quelle forme, etc. Soit on est dans un engrenage, enfin, on a mis le doigt dans l'engrenage, et puis ça va bouffer la main, et le bras, et le corps.
En Asie, je vais faire un peu le cas du diable encore une fois, j'aime bien, hein, voilà. En Asie, par exemple, ils ont mis le contrôle social, ils ont des systèmes de points. Mes amis qui sont restés en Thaïlande, ils ont un scan oculaire pour retirer les billets de banque. On sait absolument qui fait tout, quoi. Il y a même eu une régulation dans certains pays des naissances, donc on a intervenu aussi dans la sphère familiale. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Ils ont une consommation électrique hallucinante, donc ils produisent beaucoup. Ils sont en train de nous passer devant au niveau technologique. Ils sont même revenus à faire des innovations, des inventions technologiques majeures que l'Occident ne fait quasiment plus. À part les fusées de Musk, il n'y a pas grand-chose. Hein. Des nouvelles façons de faire du nucléaire, des nouvelles façons de faire l'électricité et autres. Donc là-bas, ça a l'air de tenir. Mais nous, est-ce qu'on est fait comme les Asiatiques? Est-ce que c'est temporaire?
Alors, je pense que ça ne peut pas tenir longtemps. Mais en même temps, ce que l'évolution nous apprend, c'est que certains critères, dans certains circonstances, certains gènes dans certaines circonstances ont été sélectionnés et ont été plus transmis. Ce qu'on appelle sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés plus dans la génération d'après. Et qu'au bout d'un certain temps, ils ont pu devenir extrêmement développés. Le contrôle social à la chinoise fait très peur, mais bon, je pense qu'il arrivera en Occident aussi, parce que ça va faire révéler. En fait, pour moi, on est en train de vivre le rêve de la troisième voie, c'est-à-dire la voie entre le marxisme et le libéralisme, et avec prise de pouvoir de l'État. Moi, je suis très pessimiste, mais je suis vraiment très pessimiste.
Oh, mais je pense qu'on va vers la fin des esprits libres, des créatifs, des gens légèrement asociaux, et qu'on va... Au niveau évolution, on va privilégier ceux qui rentrent dans les cases, qui sont malléables. Enfin, c'est pas les mêmes profils, quoi. Voilà.
Oui, et ça va donner quoi au niveau des enfants des générations d'après? Ça va entraîner une baisse de QI, une baisse de plein de choses. Et c'est le cycle. Il faudra un autre événement pour que, éventuellement, le QI remonte. Non, quelques centaines d'années, quoi.
Ah, pétard, on va sur Elyséum, là, ça va être génial. Bon, voilà. c'est Philippe Gouyou. Philippe Gouyou, on vous retrouve sur gouyou.com, G-O-U-I-L-L-O-U.com. Comme on peut le voir, il y a une véritable pensée. De toute façon, quand on commence à s'intéresser. Oui. Et pourquoi les femmes des riches sont belles? Vous connaissez Delavier, Frédéric Delavier?
Non, me dit quelque chose.
Oui, il avait écrit un ouvrage, s'appelait Sexe contre énergie, que je trouve était extrêmement intéressant. Et il expliquait que, à un moment donné, dans notre espèce, il y avait une scission et que ceux qui restaient dans les arbres et qui allaient chasser en couple, il y avait un taux de perte assez important. Et ceux qui laissaient les femelles dans l'arbre avec les petits et les hommes qui allaient à la chasse et qui revenaient ont gagné la guerre énergétique. Et donc, il y a des comportements qui sont restés, etc. Et il a une lecture, lui, de la société qui est basée justement sur la propagation des gènes et recherche de la calorie. Et comme je le connais, qu'il est passé ici plusieurs fois, je ne veux pas empêcher de faire le rapprochement avec ce que vous étiez en train de dire. Et pourquoi les femmes des riches sont belles? Oui, ben oui, tout à fait. D'ailleurs, quand j'étais riche, j'avais une jolie femme. Bon, très bien. Philippe Gouyou, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.
J'avais pas tort.
Oui, c'est ça.
Merci.
À la semaine prochaine. Au revoir. Voilà.
Au revoir. RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.